jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme pour ce dernier week-end de confinement. Vous le savez, nous voilà bien vous accompagne chaque samedi de 9h15 à 10h sur RTL et vous donne des informations et des astuces pratiques pour vous simplifier le quotidien. Un programme important aujourd'hui à 2 jours du 11 mai. Le déconfinement, c'est pour lundi. Concrètement, qu'aurons-nous le droit de faire et qu'est-ce qui va rester interdit après le 11 mai? Vous saurez tout dans un instant grâce à Sophie Orange, journaliste à RTL. Nous allons pouvoir ressortir librement et retrouver un semblant de vie normale. Mais quelles précautions devrons-nous prendre pour se protéger du virus? Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro Santé, va vous donner de précieux conseils. Et puis côté cuisine, l'aliment star de la semaine, c'est le citron. Vous ne savez pas comment le cuisiner? Eh bien, restez à l'écoute. La cuisinière Sonia Esguen va vous proposer des recettes surprenantes avec ce fruit aux multiples vertus.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Qui a le droit ? Qui a le droit ? Qui a le droit de faire ça ?
Merci Patrick Bruel. Alors qui a le droit et quels sont nos droits? Justement Sophie Orange, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Flavie, Sophie. Bonjour à tous, je suis ravie.
Vous êtes journaliste à RTL, on vous retrouve tous les matins, il faut être matinal, mais vous répondez à toutes les questions des auditeurs entre 5h et 9h, donc dans la matinale de la première radio de France et bien évidemment à quelques jours du déconfinement, c'est-à-dire lundi. Et bien c'est vrai qu'on réalise quand même qu'on ne va pas pouvoir forcément retrouver exactement notre vie d'avant. Il faut être lucide là-dessus.
Ah oui, c'est sûr qu'on va encore avoir des contraintes. Alors c'est sûr, le fait de ne plus avoir de signe d'attestation pour sortir de chez soi, pour aller acheter du pain ou faire sa petite sortie quotidienne, ça va nous changer la vie, c'est sûr. On va pouvoir sortir plus facilement, les commerces vont rouvrir, tous les commerces vont rouvrir. Mais dans le même temps, il faut rester chez soi le plus possible. Il faut faire attention, notamment dans les 4 régions où le virus circule énormément. Et puis beaucoup d'entre nous vont continuer à télétravailler. C'est le message du gouvernement et ce sera le cas dans énormément d'entreprises. Tout le monde ne va pas revenir au travail dès lundi, bien sûr. Il va falloir continuer à prendre des précautions, se laver les mains, garder les distances avec les uns et les autres.
Voilà, et on y reviendra dans un instant avec le docteur Damien Mascret qui nous donnera justement tous ses conseils pour vivre un déconfinement, je dirais, en toute sécurité sanitaire. Donc on ne sera pas libéré, délivré, Sophie Orange, et puis surtout en fonction de nos départements, hein, parce qu'on n'a pas tous la même liberté. Justement, on va faire un petit rappel. Quelle est la différence entre les départements verts et les départements rouges?
Alors juste déjà pour bien comprendre pourquoi un département est rouge, pourquoi un département est vert. Déjà, un département est vert si le virus circule peu, s'il n'y a pas beaucoup de tension dans les services de réanimation et s'il y a une capacité de tester ceux qui ont des symptômes, si ces capacités sont bonnes. Donc dans un département rouge, vous l'aurez compris, c'est un département où le virus peut encore circuler et surtout, c'est le critère le plus important, il y a encore beaucoup, beaucoup de monde dans les services de réanimation, plus que la normale. C'est ça le critère le plus important. Alors ensuite, donc la grande différence dans les départements rouges, c'est que les parcs et les jardins ne vont pas rouvrir, alors que ce sera le cas dans les départements verts. Dans les départements verts, les collèges pourront rouvrir, ce ne sera pas le cas tout de suite dans les départements rouges. Voilà. Après, pour le reste, les commerces pourront rouvrir dans les départements rouges. Voilà, ça peut paraître surprenant, mais ils rouvrent partout en France, que ce soit rouge ou vert. Les forêts vont rouvrir dans les départements rouges et verts, évidemment. Voilà. Donc, il y a quand même des choses communes entre les vertes et dans le département vert et les départements rouges. Il y a quelques restrictions supplémentaires dans les départements rouges. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on peut aller du rouge au vert, si vous voulez.
Voilà. Alors, justement, j'allais vous poser la question, parce qu'on a une distance de 100 km qu'on ne peut pas dépasser. On va y revenir. Mais si je vis dans un département vert et que je veux aller dans un département rouge ou vice-versa, est-ce que ça, c'est possible?
Sans aucun problème. Il n'y a pas de frontière d'interdiction. Alors, bien sûr, on reste dans les 100 km. Hein. Vous faites bien de le préciser. Donc, on peut aller d'un département rouge à un département vert, d'un vert à un vert, d'un rouge à un rouge, d'un rouge à un vert. Voilà. Tout cela est autorisé. Et même au sein d'un département, s'il fait plus de 100 km de large et de long, je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, vous pouvez faire 120 km dans le même département parce que ça reste dans le même département. Par exemple, la Haute-Garonne, Haute-Garonne, il y a des villes qui sont distantes de plus de 100 km. Voilà, donc la Haute-Garonne a plus de 100 km entre le nord et le sud. Donc vous pourrez en Haute-Garonne faire 130 km sans être contrôlé. Alors attention, élément important, si vous êtes contrôlé, il faut quand même avoir sur vous votre pièce d'identité, mais ça maintenant on en a quasiment tous une. Une attestation de domicile. Alors ça veut dire quoi? Si on est en voiture, a priori sur sa carte grise ou sur l'assurance, on a l'adresse de résidence. Mais si c'est pas le cas, moi c'est ce que je vous conseille parce que voilà, normalement la carte grise, on doit la changer quand on déménage. Mais si vous l'avez pas encore fait, prenez avec vous une facture EDF par exemple, qui montre vraiment votre dernier domicile. C'est comme ça que vous prouverez votre lieu de résidence pour cette fameuse règle des kilomètres.
D'accord, parce qu'il n'y a plus d'attestation, on l'aura bien compris. Mais qu'est-ce qu'on entend encore par motif impérieux professionnel ou familial qui justifierait le fait qu'on aille au-delà des fameux 100 km qui nous sont imposés?
Alors, pour le moment, on n'a pas encore le détail. Ce sera évidemment précisé avant lundi. De tout ce qu'on a compris des propos du Premier ministre jeudi après-midi et du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, c'est que ça va sans doute ressembler à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, motif professionnel, c'est un déplacement pour des raisons professionnelles. Les routiers, par exemple, évidemment, on va avoir le droit de faire des centaines de kilomètres, on l'imagine. Motifs familiaux, alors là, pour accompagner une personne qui est vulnérable, une personne malade, ou alors dans le cas d'une garde partagée. Par exemple, si vous avez des enfants qui sont en garde partagée sur des départements distants, des domiciles distants de plus de 100 km, ils pourront passer d'une famille à l'autre. Mais par exemple, aller dans sa résidence secondaire parce que l'herbe a poussé dans le jardin, ça sera pas possible. Aller dans sa résidence secondaire parce qu'on voudrait repeindre ses volets, ce sera pas possible. Aller rendre visite à ses meilleurs amis à 300 km, ce ne sera pas possible. Ce sont vraiment des motifs professionnels et familiaux. Les contrôles vont avoir lieu. Des milliers de policiers et gendarmes seront sur les bords des routes, surtout pour les week-ends.
Alors, qu'est-ce que je risque si je ne respecte pas la limitation des déplacements et que je tente une roublardise?
Alors, 135 euros, hein, ce sera le montant de l'amende comme aujourd'hui. Il y a eu à peu près 1 million d'amendes déjà qui ont été éditées depuis le début du confinement pour problème d'attestation. Voilà, donc ce sera la même punition, si je veux dire, pour ceux qui vont au-delà des 100 km sans les bonnes raisons que je viens d'évoquer. Grande vigilance sur les week-ends de l'Ascension et de Pentecôte qui vont donner à tous l'envie d'aller se balader très loin. Attention, les contrôles seront fréquents.
Sophie Orange, si je me fais contrôler et que j'ai dépassé les 100 km et que je suis en irrégularité, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de faire demi-tour et de rentrer chez moi après avoir pris ma prime de 135 euros?
Il y a un grand risque qu'il faille faire demi-tour, ça je vous confirme. Vous n'avez pas le droit de vous déplacer au-delà des 100 km, donc retour à la maison. Voilà, je pense qu'il ne faut pas essayer de jouer au filoutage, comme vous avez dit tout à l'heure. Il faut essayer d'être responsable. Ce n'est pas pour embêter tout le monde qu'on demande aux gens de rester chez eux, c'est juste pour éviter de transmettre le virus. Dites-vous que peut-être que ce seront vos parents qui attraperont le virus parce que d'autres que vous auront commis des imprudences. Donc voilà, je pense que chacun doit garder ça à l'esprit.
Vous parlez justement des parents. Lorsque les parents sont âgés, est-ce qu'il y aura des restrictions spécifiques pour eux?
Alors, les personnes âgées, on ne va pas les obliger à rester chez elles. D'abord, ça n'a pas de sens, c'est anticonstitutionnel. Et puis voilà, l'idée, c'est plutôt d'expliquer à cette population-là qu'elles sont plus à risque que les autres. Pourquoi ? Bien, parce que leur âge ou leur grand âge est souvent associé à ce qu'on appelle des comorbidités, donc c'est-à-dire des maladies, diabète, obésité, insuffisance respiratoire. Et chez ces personnes-là, les complications pourraient être fatales. Voilà, exactement, avec des séjours en réanimation dont on sort très fatigué quand on en sort. Donc l'idée, c'est pas de leur imposer un blackout total. En fait, les personnes âgées doivent continuer à vivre comme aujourd'hui, c'est-à-dire en sortant le moins possible. Si vous êtes fragile, demandez à des amis, des voisins de faire les courses pour vous, ils les déposent sur le palier. C'est vraiment warning très très rouge pour les personnes âgées qui crèvent d'envie de voir leurs petits-enfants, on le sait, évidemment.
Et on les comprend.
Et nous aussi. Les parents, on a envie que nos enfants rencontrent, retrouvent leurs parents et leurs grands-parents. Mais voilà, la prudence doit s'imposer. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas que tout le monde se voit. On dit juste que si les grands-parents habitent à 50 km de chez vous, vous avez le droit d'y aller. Mais à ce moment-là, donnez-vous rendez-vous dans une forêt et puis voyez-vous de loin. On ne se retrouve pas sur le canapé à lire des histoires ensemble. On peut se voir de loin.
Alors, on va se retrouver dans un instant parce qu'on n'a pas fini avec les questions, parce que certains s'interrogent et se disent « Youpi, déconfinement égale dîner entre amis, shopping, balade sur la plage » et puis on reviendra aussi sur les transports en Ile-de-France car on a des questions qui vont dans ce sens. À tout de suite sur l'antenne d'RTL, Sophie Orange, pour la suite donc de « Nous voilà bien ».
Jusqu'à 10h sur RTL,
« Nous voilà bien », Flavie Flamand.
RTL.
Merci d'être avec nous. Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Dans un instant, le docteur Damien Mascret va nous donner les précautions sanitaires du déconfinement, car on ne doit pas relâcher nos efforts. Ensuite, on parlera cuisine, parce qu'on va parler du citron avec la cuisinière Sonia Esgulian. Plein de conseils et plein de super recettes. Mais pour l'heure, on s'intéresse à nos droits à l'heure du déconfinement avec Sophie Orange.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas.
Ah oui, on a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, mais la vie en déconfinement, c'est pas la vie d'avant, Sophie Orange. Hein. Et quand on vous écoute, effectivement, on le comprend très vite.
Ça va venir.
Alors, des questions, évidemment, qui nous arrivent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Vous nous avez expliqué ces départements verts, ces départements rouges. Vous nous avez expliqué les déplacements qui sont autorisés. C'est vrai que parfois, on a du mal à s'y retrouver parce qu'on a le sentiment qu'il y a certaines incohérences. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il faut vraiment y aller très progressivement. Est-ce que je peux faire des dîners entre amis? À la maison. Est-ce que je peux vous inviter à dîner, Sophie?
Alors, ça dépend combien vous avez d'autres invités. Voilà.
Oh bah, limite, écoutez, je sais pas, j'ai envie de retrouver tous mes potes, moi, on est plus nombreux.
Je pense que vous en avez énormément, ça va faire trop. Avec plaisir, ouais. Mais plutôt en tête à tête, ou en tout cas en petit comité, puisque y compris dans la sphère familiale, la sphère amicale, il ne faut pas dépasser 10 personnes. Alors, vous allez me dire, les policiers vont pas être dans chacun des salons et chacune des salles
évidemment
à manger, mais là, c'est un esprit de responsabilité. Donc, pas plus de 10. Alors, moi, je recommanderais plutôt qu'un dîner, plutôt un pique-nique à l'extérieur. Voilà, parce que c'est à l'air, on peut facilement se mettre loin les uns des autres. Donc moi, si je recommence à voir les amis, j'ai pas encore décidé, oui, ce sera
à
plutôt
l'extérieur.
Pique-nique à l'extérieur, ça me semble plus facile, en tout cas en Île-de-France, où on le rappelle, où le virus circule encore beaucoup.
Justement, les transports en Île-de-France, comment ça va se passer?
Ce sera le point noir, la grosse inquiétude. Oui. Il faudra d'ailleurs une attestation, hein, attention, dès lundi, si vous circulez aux heures de pointe le matin entre 6h30 et 9h30. Là, les contrôles seront drastiques, 135 €. Donc, c'est l'employeur qui doit vous fournir une attestation si vous devez prendre le métro, le RER, les trains de banlieue, les bus en Île-de-France. Voilà, c'est pour éviter que tout le monde s'agglutine aux mêmes horaires. Les employeurs sont d'ailleurs invités à décaler les horaires d'arrivée et de départ pour justement éviter ces embouteillages sur les quais et dans les rames où le masque, on le rappelle, sera obligatoire dans les transports, ça c'est pour toute la France.
Alors, je m'adresse aussi à ceux qui vivent à Paris, hein. C'est-à-dire on ne peut pas prendre le métro et aller faire du shopping samedi prochain dans le 6e arrondissement quand on habite dans le Marais.
Vous pouvez faire vos courses, vous pourrez faire vos courses, c'est autorisé de faire ses courses.
D'accord, mais je peux prendre
avec
le métro comme je veux.
Prendrez le métro comme vous voudrez, avec un masque. Ça, c'est quelle que soit l'heure, c'est toujours avec un masque, obligatoire. Okay. Et après, le shopping, les boutiques seront ouvertes. Alors, pas comme d'habitude. Peut-être que vous ferez la queue dans la rue parce que le nombre de personnes sera limité dans le magasin. En entrant, vous allez devoir vous laver les mains avec du gel hydroalcoolique. On va peut-être dans les magasins de vêtements vous demander de ne pas toucher tous les vêtements, mais une fois que vous avez touché un vêtement, eh bien, de le prendre. Il y a certaines enseignes qui ont même proposé la livraison à domicile d'une dizaine de vêtements, de lingerie, par exemple. Et puis, elle reviendra 3 jours plus tard récupérer les vêtements pour ne pas essayer dans les cabines d'essayage du magasin qui seront désinfectées entre chaque passage. Et ensuite, dans les magasins de vêtements, plusieurs enseignes l'ont déjà annoncé, les vêtements essayés par les clients seront mis dans un carton spécial et on ne les touchera pas pendant 24 heures. Elles seront vaporisées avec le fer à la vapeur avant d'être remises en rayon. Vous voyez, les commerces vont avoir vraiment une vie aussi très compliquée, mais le shopping, évidemment, sera autorisé puisque les magasins sont ouverts.
Il y a ceux qui nous écoutent aussi qui habitent en bord de mer et qui rêvent d'aller faire une balade sur la plage. Alors ça, c'est quand même le gros sujet, hein, la plage, hein,
alors,
à la différence
la plage,
de la montagne, ouais, d'ailleurs.
Alors la plage, pour le moment, à l'heure où on se parle, la règle, c'est elle reste fermée sauf dérogation. Voilà, ça veut dire que si le maire veut absolument ouvrir sa plage, c'est le préfet qui dira oui ou non. Donc en Bretagne, par exemple, la préfecture a déjà dit lundi, mardi, c'est sûr, ce sera fermé. On va voir peut-être pour le milieu de la semaine. Alors évidemment, dans le sud-ouest, en Bretagne, où il y a des immenses plages très 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 longues, la dérogation sera peut-être plus facile à accorder que sur une toute petite crique dans la Côte d'Azur, c'est sûr. Donc on imagine que dans quelques jours, sur les grandes plages de l'océan, on pourra sans doute s'y promener. Pas s'asseoir, pas se retrouver en grande famille pour y passer la journée. Ce sera sans doute du mouvement en gardant les distances, évidemment.
Bon, on aura bien compris en tout cas qu'il faut y aller très très progressivement et respecter évidemment ces règles scrupuleuses qui sont des règles importantes pour se débarrasser de ce foutu virus. Tout va être étudié pour le 2 juin en fait, en fonction de l'évolution de la situation, c'est ça ?
Voilà,
si on se tient à carreau, en fait, on a une chance d'avoir de nouvelles mesures plus souples à partir
du 2 juin. Par exemple, notamment pour les hôtels et les restaurants dans les départements verts, on peut imaginer que si ces départements sont toujours verts, les restaurants, parce que les hôtels sont encore ouverts quand ils ont des clients, mais les restaurants pourront rouvrir petit à petit, là encore en respectant les distances, tout cela est à préciser. Mais voilà, le 2 juin, prochain point d'étape pour savoir si notre vie va continuer à se déconfiner peu à peu.
Voilà, et on n'obtiendra tout ça que si on se tient effectivement à ces mesures et qu'on les respecte. Merci beaucoup Sophie Orange d'avoir été avec nous. Alors bon courage pour la semaine prochaine, hein, parce que c'est vrai que vous êtes super matinale. On vous retrouve donc dans la matinale d'RTL. Merci, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Mais je vais rester pour écouter les recettes avec le citron.
Ah oui,
parce que moi j'ai toujours des citrons qui pourrissent au frigidaire, donc ça m'intéresse de savoir ce que je peux en faire.
Eh ben voilà, restez à notre écoute car vraiment le citron a des vertus incroyables et la chef Sonia Esgulian a plein de choses à nous raconter. Je vous embrasse. Salut Sophie, à bientôt sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. I want to break free.
Bon, on l'aura bien compris, hein, libérer, délivrer, c'est pas pour maintenant, il faut y aller doucement et puis surtout pour un déconfinement en toute sécurité, il faut respecter certaines règles. Le docteur Damien Mascret est avec nous, il est médecin et journaliste au Figaro Santé. Bonjour Damien, bonjour docteur.
Bonjour.
Bon, alors c'est vrai, la fin du confinement, ouais ça va, merci. La fin du confinement, ça signifie pas qu'on va retrouver notre vie d'avant tout de suite, hein. On n'en a pas fini avec ce fichu virus.
Ben non, pas tout de suite. Il va y avoir une période de semi-liberté, une période d'adaptation. On va encore devoir appliquer des règles. Mais bon, ça approche quand même. Et puis, ça va quand même bien s'alléger. Donc, c'est quand même appréciable.
Est-ce qu'on va devoir respecter un protocole sanitaire strict comme toutes les mesures que vient de nous expliquer Sophie Orange aussi pour nos déplacements?
Oui, il va falloir le faire. Ça sera peut-être plus facile parce qu'on aura l'impression que c'est un peu volontaire. Il ne faudra pas les oublier, c'est sûr, hein, que vous soyez en zone verte ou zone rouge, peu importe. Il y a autour de vous des gens qui sont fragiles, qui sont vulnérables. Vous aurez envie en plus d'aller voir peut-être vos parents, vos grands-parents. Donc, il faut vraiment se méfier parce que on va avoir ce sentiment un petit peu de moindre risque alors que le risque va être augmenté. Donc vraiment, il faut être très prudent. Maintenant, si on est prudent, là, ça devrait bien se passer.
À quoi vont ressembler nos journées?
Alors, elles vont ressembler effectivement à des journées où on va devoir lutter un petit peu contre l'anxiété, contre l'angoisse. Pourquoi? Parce que on saura que l'environnement extérieur est dangereux et on va même craindre, je pense aux parents quand ils vont récupérer les enfants, que l'environnement à l'intérieur soit dangereux si les enfants ont été à l'école. Donc, il va falloir gérer cette anxiété. Ça veut dire qu'on va devoir limiter au maximum les interactions sociales. C'est vraiment là que ça va se jouer parce que c'est ça qui va être le plus difficile à faire. Continuer de réduire ses interactions sociales avec ses proches, avec ses amis. À l'extérieur, quand on va faire les courses, on a pris un petit peu l'habitude, ou en tout cas, on va la prendre si on ne sortait plus. Donc ça sera plus facile. Mais avec les proches, c'est vrai que c'est ce qui va être le plus compliqué.
Ça va pas toujours être simple. Il va falloir respecter donc la distanciation sociale, on l'a compris. Oui. On va avoir besoin de plusieurs masques par jour. Comment est-ce qu'on gère ceux qui sont en tissu, qu'on va retirer? On va devoir aussi les ramener chez nous. Ils auront peut-être des traces de virus. Comment on s'organise là-dessus?
Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où on a porté un masque hein, dans un lieu où on est potentiellement exposé, il est effectivement considéré comme contaminé. En tout cas, ils font le considérer comme tel. Attention, c'est pas Ebola non plus. Hein. Vous avez le droit de le toucher avec vos mains, simplement. Il faut considérer ensuite que vos mains elles-mêmes sont contaminées tant qu'elles ne sont pas nettoyées. Bref, tout ça fait que vous aurez des manipulations à faire, probablement, une fois que vous aurez enlevé le masque. Si ce n'est pas un masque jetable, un masque que vous voulez réutiliser, il faudra le mettre dans un petit sachet en plastique. Alors attention, là aussi, il faudra faire attention de ne pas toucher l'extérieur, bien sûr, il y aura des précautions à prendre. Mais ensuite, vous lavez les mains avec une solution hydroalcoolique, hein, par exemple, si vous êtes encore à l'extérieur et que vous avez dû l'ôter. Parce que n'oubliez pas que le masque, on dit 4 heures, mais ça veut dire aussi que s'il devient mouillé, par exemple, ou si vous considérez qu'il est vraiment dangereux parce que vous avez discuté à moins d'un mètre en face de quelqu'un, si en plus ce quelqu'un a éternué pas l'air en forme, il faut vraiment considérer que le masque doit être changé.
D'accord. Il faut se laver les mains, les frotter avec du gel hydroalcoolique. Dès qu'on touche un truc, dès qu'on touche des poignées de porte, je pense à ceux qui vont reprendre le boulot aussi, par exemple la machine à café, les papiers que quelqu'un va nous donner au bureau. Dès qu'on touche quelque chose, il faut se laver les mains?
Alors, c'est vrai qu'il faut considérer que ce qu'on touche est là aussi potentiellement contaminant. Maintenant, attention, c'est pas forcément effectivement la feuille qu'on vous a donnée qui va vous contaminer parce que là aussi, quand bien même il y aura un petit peu de virus dessus, a priori, il n'y a pas des postillons dessus, il n'y a pas une grosse tache humide. Donc, s'il y a du virus, il n'y en a quand même probablement pas une énorme quantité. Par contre, c'est vrai que sur tout ce qui est poignées de porte, boutons d'ascenseur, bref, les lieux, les endroits qui sont touchés très fréquemment par beaucoup de personnes, là, on ne sait pas trop et il peut y avoir des surprises. Donc, il faudra avoir soit un petit mouchoir, un petit quelque chose que vous jetterez après avoir touché les boutons, soit considérer, encore une fois, que vos mains eh bien, sont souillées et donc, dès que possible, en tout cas, tant que vous ne les aurez pas lavées en solution avec une solution hydroalcoolique ou avec de l'eau savonneuse, eh bien, il ne faudra surtout pas les porter à votre visage. C'est aussi un des intérêts du masque. Quand on a un masque, on évite de se toucher la bouche ou le nez.
Oui, en fait, c'est ça. Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, Damien Mascret, c'est que effectivement, nos mains peuvent être au contact du virus, mais on le répète, tant qu'on ne sait pas toucher la bouche, les yeux, le nez, les muqueuses, le visage, voilà, on peut se débarrasser du virus. Donc, il faut peut-être aussi qu'on arrête de se tripoter le visage. Voilà, en règle générale, déjà, à la base, et se laver les mains dès que l'on touche une surface potentiellement contaminée. On va se retrouver dans un instant, car évidemment, il y a des parents qui s'inquiètent. Les précautions à prendre avec les enfants quand on les récupère de l'école. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de nos vêtements? Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Si comme Sophie Orange en début d'émission, vous ne savez pas quoi faire de vos citrons, eh bien figurez-vous que la cuisinière Sonia Esgulian va non seulement vous dire tout ce qu'elle connaît sur ce fruit absolument extraordinaire et en plus elle va vous donner des super recettes pour ce week-end. Mais pour l'heure, on est avec le docteur Damien Mascret.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Freedom, c'est bientôt la liberté, le déconfinement qui doit être progressif, on l'a bien compris. Et il faut respecter des règles sanitaires qui sont quand même strictes. Et le docteur Damien Mascret est là pour nous les rappeler. Quelles précautions, Damien, doit-on prendre avec nos enfants quand on les récupère de l'école ?
Alors c'est vrai qu'en principe, dans les protocoles, il est prévu que de toute façon, vous les récupériez propres. C'est-à-dire qu'ils auront lavé les mains avant de sortir. Voilà, c'est pas toujours le cas quand on les récupère à l'école, mais en tout cas, là, ils seront bien propres, ils auront lavé leurs mains. Donc au moins, voilà, ça, ces précautions seront prises. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il faudra penser que peut-être, effectivement, que leurs vêtements particulièrement ont été exposés. C'est sûr que les enfants qui jouent ensemble, qui discutent ensemble, qui respecteront peut-être pas toujours non plus les mesures qu'on leur a recommandées, potentiellement, vont recevoir aussi des projections de salive. Donc, c'est vrai que un des bons réflexes sera probablement, en rentrant à la maison, de les faire changer. En tout cas, les vêtements qu'ils ont au-dessus, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de les mettre tout de suite dans le panier de linge sale, de ne pas les conserver. Si vous êtes un peu stressé, vous leur demandez à nouveau de se laver les mains. Et puis, il faudra surveiller, on l'a dit, de toute façon, leur température, parce que évidemment que la donne va changer s'ils ont des symptômes, mais là, ça, vous n'y pouvez rien.
Et je pense à ces petits choux qui prennent en général leur bain le soir. Ce sera l'occasion, quand on les récupère, de leur faire se laver les mains. Hop, tout le monde se déshabille et au bain. Et après, on est tranquille. Nos vêtements, justement, direct dans la machine à la fin de la journée, on ne peut pas tout laver à 60 degrés comme les masques, Damien.
Non, alors là aussi, les vêtements, vous savez qu'à partir du moment où vous avez laissé reposer vos vêtements, encore une fois, je ne parle pas du cas où vous avez vraiment été exposé à un malade ou quelqu'un qui toussait, mais a priori, les vêtements, si tant est qu'il y ait eu des traces de virus dessus, au bout de quelques heures, le virus sera inactif, donc de toute façon, ne pourra plus vous contaminer. Donc le linge, vous pouvez faire vraiment comme d'habitude. La seule exception, ça sera ces fameux masques alternatifs, les masques en tissu, qui eux devront être lavés à part. Et eux devront être lavés au moins 60. Mais pour le reste de votre lessive, non, vous pouvez la faire comme d'habitude.
On rappelle ce que vous nous avez dit la semaine dernière. On lave les masques à 60, les masques entre eux, lessive, pas d'adoucissant, et on les sèche non pas en les laissant sécher ou dans un sèche-linge, mais on les sèche idéalement avec un sèche-cheveux. Je l'ai fait cette semaine. En fait, c'est très rapide. C'est ça qu'il faut aussi expliquer à nos auditeurs. C'est extrêmement rapide. Un sèche-cheveux, hop, on sèche notre masque et on le remet après dans un sac prévu à cet effet, au masque propre que l'on peut utiliser. Il y a des règles aussi sanitaires à respecter au sujet de ces masques qui vont nous protéger. C'est un peu contraignant tout ça aujourd'hui quand on vous écoute, Damien. Est-ce qu'on peut se dire que ça va devenir des automatismes par la suite ? Est-ce que nous apparaît comme absolument phénoménal aujourd'hui va finalement rentrer dans nos habitudes ?
Alors, il y a des choses, effectivement, qui vont être adoptées, et tant mieux, parce que, effectivement, alors, peut-être pas les masques, hein, ça sera plus compliqué, on va vite les abandonner, à mon avis, encore que, on pourra se poser la question en période d'épidémie de grippe, là aussi, hein, pour se protéger et protéger les autres, les personnes âgées, mais pour tout ce qui est lavage des mains, évidemment que c'est fondamental. On sait qu'une bonne part, d'ailleurs, des infections respiratoires aussi en hiver, hein, passent par les mains, hein, qui touchent des surfaces sales. Les enfants, évidemment, n'ont pas, c'est plus difficile, même si on se bat un petit peu parfois avec eux pour qu'ils se lavent les mains, mais nous-mêmes aurons probablement plus facilement un gel hydroalcoolique dans la poche, et on le fera. C'est des habitudes qu'on va garder, alors là, pendant quelques semaines, puisque quand même, il faut dire que l'épidémie a l'air quand même de bien diminuer, et on peut espérer que dans quelques semaines, on en sera débarrassé. Alors, pour combien de temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, pendant ces quelques semaines, on va les appliquer à la lettre. Et puis ensuite, on gardera probablement une partie de ces... Et on évitera des infections respiratoires, des gastro. Bref, on évitera beaucoup d'infections. Donc finalement, des bonnes habitudes qu'on aura prises.
Eh bien, on les aura prises aussi grâce à vos conseils avisés. Merci beaucoup, Damien Mascret, d'avoir passé ce moment avec nous. Cette piqûre de rappel, voilà, qui n'était pas si douloureuse que ça, hein, quand vous le piquez,
non,
vous, hein, Damien.
Ça va bien
passer. Et à très bientôt. Vous aimez le citron, vous ?
Oui, j'adore. Confie,
ah ouais, surtout. Super. Eh ben, restez. Ah, confie. Eh ben, Sonia Esguignon aura peut-être des choses à nous dire justement à ce sujet-là. Je vous embrasse,
d'accord,
Damien. Et à très bientôt sur RTL.
Écoutez, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Bonjour Sonia Esguillon.
Bonjour Flavie.
Et je suis
bonjour
contente
à
de vous
tous.
Entendre. Vous êtes cuisinière, vous êtes auteur, vous êtes journaliste. Et aujourd'hui, on va parler de mon fruit préféré, qui est le citron. Donc moi, ça me met en joie. J'adore les agrumes et j'adore les citrons. Alors il y a plein de choses à faire. En fait, c'est un fruit fabuleux, le citron.
Bah, en fait, on peut l'utiliser dans tous les moments de la journée, le petit déjeuner, les repas, même le goûter, des recettes salées, sucrées. Enfin, en fait, le citron, il a deux éléments principaux. Il a l'écorce, le zeste et le jus. Et là, franchement, ça laisse des possibilités énormes. Tout à l'heure, je vous entendais parler de citron confit. En fait, c'est très, très simple à faire à la maison. On prend des citrons alors bio. Pratiquement pour toutes les recettes de citron, partons du principe qu'ils soient bio. Pourquoi ? Parce qu'on peut vraiment tout utiliser. Et quand on a la chance en plus d'avoir des feuilles, les feuilles parfument également des bouillons, parfument également...
Mais
oui, c'est formidable. Et alors pour nos petits citrons confits, bah, c'est très très simple. On va prendre donc des citrons bio, on va faire une incision en forme de croix dans la hauteur du citron, mais pas complètement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les couper complètement. On fait une petite incision en forme de croix et là, on va mettre du gros sel, mais vraiment bien bien assez du gros sel. Alors par exemple pour 4 citrons il vous faut à peu près 80 à 100 grammes de gros sel, et puis on les met dans un bocal et il faut qu'ils soient bien serrés dans le bocal, ces citrons, il ne faut vraiment pas qu'ils soient à l'aise. On les laisse 3-4 jours dans la cuisine dans un endroit frais et vous allez voir que du jus va s'écouler, en fait une sorte de bouillon, et puis à partir de là on remplit le reste du bocal avec de l'eau chaude, on laisse un mois mariner, on va avoir des citrons confits. Ou alors, peut les rincer et les mettre dans le bocal avec de l'huile d'olive. Et là, c'est formidable. Non seulement vous avez des citrons confits, mais en plus, une huile qui est parfumée au citron. Et alors ça, pour les crudités, les carottes râpées, le poisson vapeur, le fenouil émincé, etc., c'est une merveille.
Bah écoutez, on va se retrouver dans un instant parce qu'on commence très très fort. Damien Mascret, je suis persuadée, a noté la recette donc du citron confit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés de citron, on va y revenir. Et puis, il est plutôt intéressant le citron sur le plan nutritionnel. On va parler de la conservation parce que Sophie Orange, en début d'émission, nous disait « moi j'en ai toujours à la maison, mais ils sont toujours en train de pourrir ». Donc vous allez nous expliquer aussi comment bien les conserver. Et puis on aura des bonnes petites recettes, comme vous savez, à chaque fois nous les donner. On se retrouve tout de suite. Oh là, je salive déjà. À tout de suite sur RTL. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et chic alors, on parle du citron.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Le citron saigne assidûment, de la sève acidulée, ce n'est pas vraiment sucré, mais c'est loin d'être salé, c'est soudainement...
Le goût du citron enchanté par Mickey 3D, et puis tout sur le citron, grâce à vous Sonia Esgulian, merci d'être avec nous. Alors vous nous avez déjà expliqué comment faire le citron confit, j'en connais un qui est content, c'est le docteur Damien Mascret. Mais avant de repartir sur des recettes que vous allez nous donner, et notamment un tagine, trop bon, comment est-ce qu'on choisit notre citron ?
Alors en fait, la nature est bien faite. On en a tout au long de l'année et ce sont des variétés différentes et des origines différentes. Par exemple, en début d'année, en janvier, février, il y avait les citrons de Menton. Après, au printemps, pendant cette période qui nous concerne là, les citrons arrivent essentiellement d'Italie, de Sicile, de près de Naples également. Ensuite, on va avoir les citrons d'Espagne, etc. Et en fait, on va avoir des citrons aussi français parce qu'ils vont finir par pousser aussi dans au jardin cet été, et en fait on aura aussi des citrons d'hiver, parce que le citron c'est souvent un produit qu'on a l'hiver, mais tout dépend de la météo, et donc on peut choisir les citrons. Alors deux éléments, comme je vous disais tout à l'heure, bio, et après il y a des citrons plus ou moins doux, ça c'est une question de goût. Alors la famille des citrons est immense, hein. Il y a des citrons par exemple Meyer qui sont très appréciés pour leur jus et la cuisine. Il y a des citrons qui s'utilisent essentiellement pour leur zeste parce que ils ont très peu de jus. Après, c'est vraiment une question de goût et surtout de l'approvisionnement, ce qu'on trouve sur les étals en fait.
Très bien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on peut en avoir donc toute l'année. Il est super intéressant sur le plan nutritionnel, le citron. C'est de la vitamine C à gogo.
Ça, c'est le trésor absolu de la santé, en plus de la gourmandise. Parce qu'en fait, le citron, donc très riche en vitamine C, il favorise l'immunité, permet l'absorption du fer. Ça, c'est génial pour le bon fonctionnement de tout, de notre métabolisme en général. Alors, je voulais juste signaler quelque chose. Tout le monde me dit, ah, c'est formidable, le petit citron chaud qui fait bien digérer après un repas bien riche. Oui, il fait digérer, mais il ne fait pas maigrir. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on consomme beaucoup de citron chaud, ça permet d'éliminer. Mais en tout cas, ça donne très vite une sensation de bien-être. Et ça, c'est génial.
Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que le jus de citron, moi, j'en prends tous les matins. Mais juste pour le plaisir, j'ai l'impression tout à coup de pouvoir démarrer ma journée en étant clean. C'est psychologique, mais c'est très agréable. Comment est-ce qu'on conserve le citron ?
Alors, plusieurs choses. En fait, tout dépend de la quantité dont on dispose et si on le garde. Alors, dans l'idéal, il faut le garder à l'extérieur quand il n'est pas découpé. S'il fait trop chaud, bah, il va falloir le mettre au réfrigérateur, si possible, en bas, dans un sac craft. En bas dans le bac à légumes, parce que c'est là où c'est le meilleur. Mais si on peut, dans la mesure du possible, il vaut mieux le conserver à l'extérieur. C'est comme beaucoup de fruits, ils perdent quand même de leur saveur quand on les met au réfrigérateur. Et puis après, quand on l'a découpé, alors là, pour le coup, il faut vraiment le mettre soit dans un petit bocal, soit le mettre sur une coupelle et on retourne un verre pour enfermer le citron sous cloche, parce qu'il va très très vite sécher et perdre énormément de son goût. Alors souvent on dit on met un petit citron pour désodoriser le frigo, c'est pas ultra efficace. Si on veut désodoriser le frigo, on prend un bol de lait qu'on laisse comme ça, juste du lait qu'on a versé dans un bol, ça va capturer toutes les mauvaises odeurs et après on jette le lait. Mais le citron, c'est pas vraiment prouvé que ça désinfecte en fait ou que ça désodorise en fait le réfrigérateur. C'est surtout qu'il sèche très vite.
Ok, donc je préfère un petit bol de lait pour enlever les odeurs dans mon réfrigérateur. Oui. Je le préfère au citron. Néanmoins, le citron, en fait, même en dehors de la cuisine, il a différentes utilités.
Ah ben, moi, je m'en sers à 100%. C'est-à-dire que le top du top, vous avez besoin d'un jus de citron pour une recette. Par exemple, vous avez envie de faire une tarte au citron, mais vous n'utilisez donc que le jus. Avant de presser les jus de citron, on prélève le zeste. On n'est pas obligé d'avoir besoin tout de suite du zeste. Ça se congèle extrêmement bien. Donc, on a une petite boîte ou un sachet avec un zip qu'on met au congélateur et on se sert des zestes au fur et à mesure. Ça, déjà, ça peut être une idée. Après, une fois qu'on a pressé le citron, il reste justement cette enveloppe où il ne reste plus grand-chose, en fait. Hein. J'ai juste cette petite enveloppe de citron. Et là, c'est le produit miracle pour nettoyer les planches à découper. On met un tout petit peu de gros sel sur les planches à découper et on frotte avec le citron qui n'a D'accord. plus donc, de zeste et plus de jus. Et là, franchement, ça nettoie formidablement bien et surtout, ça désodorise. Quand on fait, par exemple, du poisson ou de l'ail et qu'on se dit, oh là là, la planche, elle va vraiment sentir un petit peu fort, eh bien, vous utilisez ce citron avec du gros sel et c'est magique.
Et c'est bon pour le linge aussi ?
Oui, alors le petit truc de grand-mère qui marche très très bien aussi, moi j'aime beaucoup acheter des jolis linges en lin, etc. pour mettre sur des nappes, et puis quelquefois ils perdent un petit peu de leur éclat. Et bien en fait, il y a une astuce très très simple, c'est de les faire un petit peu tremper avant de les passer au lave-linge dans un jus de citron avec un peu de bicarbonate et de l'eau. Et en fait, on va vraiment faire blanchir le linge. Ça, ça marche très très bien.
On cuisine maintenant, hein ? Ah bah oui, exactement. Vous avez des recettes. Alors, rapidement, une recette de taboulé de quinoa au citron poêlé. Oh, je ne savais même pas qu'on pouvait poêler le citron. Et puis, un tagine de coquelet. Alors, on va pour le taboulé.
Voilà, ouais. Je vous donne surtout l'explication du citron poêlé parce qu'en fait, ça marche avec beaucoup, beaucoup de choses, avec des pâtes, avec du taboulé, avec un poisson grillé ou autre. En fait, l'idée, c'est de prendre des citrons jaunes de taille moyenne, de les éplucher et de les couper en tranches d'un demi-centimètre. Et donc, au moment de servir, on va, dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, faire colorer. Alors, on a une poêle qui est bien chaude et on fait colorer les tranches de citron de chaque côté. Ce côté, en fait, caramélisé du citron va apporter vraiment quelque chose à la préparation. La préparation est extrêmement simple. C'est 200 grammes de quinoa cuit dans de l'eau salée. Ça cuit une quinzaine de minutes à peu près. Vous égouttez bien, vous laissez refroidir. Et ensuite, vous ajoutez dans ce taboulé ce que vous avez envie. Là, en ce moment, moi, je mange pas de tomates jusqu'à fin juillet au moins. Mais en ce moment, par exemple, je mets des petits dés de courgettes que j'ai fait à peine revenir avec un oignon émincé, des petits pois. Vous pouvez mettre des asperges, ce que vous avez envie. Vous mélangez tout ça avec un filet d'huile d'olive et le zeste et le jus d'un citron jaune ou vert, comme vous avez envie. Et après, la touche qui fait tout, ce sont ces fameuses tranches de citron qui sont bien poêlées. Et là, vous allez voir, ça apporte un goût qui change tout.
Et je peux les manger comme ça ?
Ah ben oui. Alors, ça, ceux qui craignent un petit peu l'acidité, si vous aimez le citron du matin, vous n'aurez aucun problème pour aimer ce petit taboulé.
Je croque mon citron, c'est génial.
Mais c'est des petites tranches pas très épaisses et qui sont quand même assez moelleuses, mais qui ont une toute petite surface bien caramélisée.
Et en fait, ces tranches de citron, on peut les rajouter à plein de recettes à partir du moment où...
Ah bah là, je vous conseille, quand vous avez commencé, après, vous ne vous arrêtez plus.
On en met partout, quoi. Et alors, est-ce qu'on en met dans le tagine, justement ?
Alors là, c'est encore une histoire de citron confit, mais encore plus facile que les premiers citrons dont je vous ai parlé avec le gros sel. En fait, cette recette, je la tiens d'un ami qui ne sait absolument pas cuisiner. Et j'adore les gens qui ne savent pas cuisiner parce qu'ils trouvent toujours des idées très amusantes, très faciles. Dans un plat, on n'est pas obligé d'avoir un plat à tagine, hein. On peut avoir un plat à gratin un peu haut. En fait, dans ce plat, dans le fond, on va mettre un filet d'huile d'olive, des oignons, une bonne quantité d'olives, de grosses olives violettes ou des olives noires dénoyautées. Ensuite, on va mettre un petit peu d'herbe aromatique, alors surtout de la coriandre. Et on va mettre en plein milieu de ce plat un citron. Alors un citron frais, pas du tout confit, hein. Un citron dont on aura coupé juste une des extrémités. On le pose en fait en plein milieu de ce plat et c'est ce qui va servir en fait pour faire l'architecture du tagine. Tout autour de ce citron, je vais rajouter par exemple quelques pommes de terre, un peu de fenouil confit, des carottes. Je peux rajouter du poulet. Moi j'aime bien ajouter du coquelet. Je trouve que c'est très joli. On le coupe en deux un peu ce coquelet et on va le mettre tout autour du citron. Si on a un plat à tagine, on met le couvercle et on va mettre au four. Si on n'a pas de plat à tagine, on va mettre un petit peu de papier sulfurisé ou aluminium et on enfourne. Alors là, il faut être généreux. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le miel, très très important.
Ah,
si on
c'est pas bien de miel, ça.
Un petit peu de miel. Et puis donc, on va mettre au four alors largement deux bonnes heures. Et ensuite, on aura le droit d'ouvrir ce plat à tagine, rajouter des légumes qui cuisent beaucoup moins vite, comme les courgettes ou autres. On rajoute encore un petit peu de cuisson. Et là, c'est fabuleux.
Oh là là, on y est, mais c'est incroyable.
Et le citron est parfaitement confit, c'est-à-dire qu'il n'a pas le goût du premier citron confit que je vous ai donné, parce qu'il a simplement cuit dans toutes ces odeurs de cuisine. C'est assez génial.
Eh bien voilà, ce sont des recettes qu'on retrouvera évidemment sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien. Je savais que le citron avait plein de vertus, mais on l'a encore découvert avec vous. Et puis surtout, on découvre qu'on peut le cuisiner de plein de façons complètement différentes, Sonia Esguignan. Et ça,
oui,
c'est,
puis là, je voulais faire en précieux. Plus, petit oui. bonus de la journée, je vous ai fait une petite vidéo sur mon compte Instagram. Comme ça, vous pouvez voir toutes les étapes du tagine. Et alors, merci. Déjà que la recette était facile, mais alors là, en vidéo, comme ça, vous voyez parfaitement toutes les étapes.
Voilà, la page Instagram Sonia Esguignan. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir été avec
Bonne
nous
cuisine,
ce matin.
Et prenez soin de vous.
Oui, vous aussi. Et puis, j'ai hâte qu'on se retrouve dans nos studios à RTL. Je vous embrasse bien fort, Sonia.
À
prenez
bientôt.
Soin de vous.
À bientôt. Au revoir.
On se fait des bisous, car c'est déjà la fin de Nous Voilà Bien. Retrouvez cette émission et toutes les autres en replay sur RTL.fr et en podcast sur les plateformes dédiées. Les délicieuses recettes au citron, je vous l'ai dit, hein, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien et sur la page Instagram de Sonia Esguignan. Moi, je vous donne rendez-vous lundi à 14h30 pour On est fait pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'RTL. Bon déconfinement extrêmement progressif et le plus sécure possible. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. RTL.